Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a deux risques principaux côté Everton, c'est que le
principaux,
même bah voilà, j'ai le droit au jingle.
Bien sûr.
Il a pris un petit peu cette base là pour en fructifier les fruits. Ouais. On doit faire fi de tous les égos, et ben on va le faire parce que le plus important, c'est notre qui reste en Liga.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Merci d'être avec nous et bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir autour de la table, Walid Descherchons. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Elton Mokolo est là aussi. Salut Elton.
Salut Nico, salut à tous.
J'ai fait une petite émission. Entre potes, un vendredi soir, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ça a beaucoup fait réagir, ça a beaucoup été validé aussi.
Avec Sofiane.
Le WFC était là.
François aussi. François
Pinet.
Ouais.
Tout à fait. François. Je viens de le citer également. Je crois que c'est Thibaut vendredi soir. Non, il a fait l'after. Bonsoir Thibaut Gingrande.
Salut Nico, salut tout le monde.
Thibaut qui va encore œuvrer ce soir avec les drôles de dames pour les chapeaux.
Ouais.
Les chapeaux ce soir ?
Chapeaux des milieux de terrain. Okay. Et comme on est à la bourre, c'est ce que c'est les chapeaux tous les ans, on finit jamais. Ce soir, c'est les 6, 8, 10. Ça va être n'importe quoi.
Ouais. D'abord, il y aura Génération After, bien sûr, avec David Guzman également. Bonsoir David.
Salut Nico, salut la team.
Ce soir, au programme, tiens, on va faire nos prédictions pour l'Euro 2024 qui démarre dans deux jours. Vous avez choisi votre vainqueur de l'Euro, votre sélection crash de l'Euro, votre joueur frisson. Également votre révélation, meilleur buteur, on en parlera également. Vous pouvez jouer avec nous au 32-16, évidemment, c'est très interactif. N'hésitez pas à nous appeler pour vos prévisions Euro 2024. Elton, justement, tu veux parler de l'Euro. Tu estimes que le foot de sélection est de plus en plus maltraité, méprisé. Tu nous diras pourquoi dans ton avis tranché aux alentours de 20h40. Avis de David Guzman également ce soir, qui lui veut absolument instaurer un salary cap en Ligue 1, un plafond salarial. Peut-être une des façons de sauver le football français, on en parlera aussi, on en débattra avec vous au 32-16 également. Et puis Walid, lui, veut absolument que le PSG fonce sur Bruno Guimaraes. Newcastle a besoin de vendre cet été, sinon Newcastle sera sanctionné. Julien Laurent sera avec nous pour nous dire qu'il y a 6 clubs anglais qui sont menacés de sanctions lors de l'été prochain. Et puis les infos du jour, l'équipe de France au programme également. On écoutera également Olivier Létang, le président du LOSC, hein, qui met un petit taquet à Edon Jegrova, qui lui avait annoncé qu'il voulait partir pour un plus grand club. Ce sera en fin de Génération After. Et donc l'after, il n'y aura pas que les chapeaux ce soir à partir de 22h.
Non.
Avec Thibaut Gingrande.
Il y aura Kevin Diaz et Daniel Riolo aussi.
Ah, Kevin est là. Ah, Kevin, d'accord.
Kevin, ouais. On lui a dit tu préfères faire. Enfin bref. Et du coup, il sera là à 22h. Avec vous tous au 32-16 et bien évidemment la suite du feuilleton des droits télé. Aujourd'hui, Philippe Diallo a parlé. Il craint la banqueroute du foot français. On l'écoutera et on commentera bien évidemment. Et puis on sera en Allemagne avec Nico Pelletier à deux jours du début de l'Euro. Les dernières infos concernant l'arbitrage, notamment aujourd'hui, on a appris pas mal de choses. On s'intéresse aux Bleus. Les dernières nouvelles de l'équipe de France et l'animation offensive ce soir. Et donc à partir de 23h, les chapeaux des milieux de terrain. On vous attendra très nombreux, bien évidemment, au 32-16 et sur YouTube pour les faire avec nous, ces chapeaux.
Effectivement, Thibaut, nous sommes sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot, pour nous voir, commenter dans le chat et vous abonner également. Vous êtes 164 000. À tout à l'heure, Thibaut, pour l'After, dès 22h, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Je vous rappelle que demain soir, on sera là également, veille du coup d'envoi de l'Euro, Génération After, avec le quiz de l'After ce jeudi, 21h45. Comme d'habitude, vous pouvez participer, choisir votre équipe. Pour cela, il faut envoyer quiz au 732-16, quiz au 732-16 et tenter de remporter, donc en cas de victoire, un bomber shot. Quiz
jouer
au 732-16.
Sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott. Ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
L'Euro 2024 débute vendredi soir, après-demain par un Allemagne-Écosse, le pays hôte, hein, sera à 21h, sera sur RMC également, comme tous les matchs de l'Euro, y compris sur la radio digitale d'RMC en intégralité. Alors, on va jouer ce soir les amis, pendant environ 40-45 minutes, hein, vos prédictions, on va débattre aussi, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, vous aussi qui nous écoutez au 32-16. Commençons par le vainqueur de l'Euro, selon vous, quel sera-t-il ? Tiens, je commence avec toi Elton, qui tu vois remporter l'Euro 2024 ?
Alors moi je suis parti sur l'équipe de France,
l'équipe de France qui pour moi est la grande favorite, parce que l'équipe de France est l'équipe qui a le plus de qualité selon moi, et surtout elle a une expérience qui est non négligeable sur les phases éliminatoires. Je t'aperçois quand je vais parler des autres équipes, elles peuvent pas afficher ce genre d'argument, et moi je pense que l'équipe de France avec Didier Deschamps qui a quand même remporté 11 matchs éliminatoires depuis que Deschamps a eu sa première compétition, je pense que c'est la principale favorite, et que l'équipe de France n'a pas besoin d'être la meilleure à chaque match, elle a juste besoin de passer des tours, et je pense que c'est la meilleure équipe pour ça.
Bon, d'accord les gars ou pas d'accord forcément, mais les arguments comptent.
Ah oui, ça reste une équipe qui va compter dans cette compétition et qui a un passif, qui est vice-championne du monde.
Un actif pour le coup.
Hein, un actif même.
Non, un passif. Quand je parle de passif, ça veut dire
un passé. Un passif, c'est péjoratif, c'est négatif.
C'est péjoratif. Ok, donc un passé, voilà, un passé glorieux pour dans des compétitions. Ils doivent se relever aussi du dernier Euro où contre la Suisse, c'était mal passé. Il faut rappeler que ça fait 24 ans qu'on n'a pas gagné l'Euro. Donc il y a quelque chose à aller chercher. Pour un Kylian Mbappé, c'est le trophée qui lui manque. Pour un Didier Deschamps, c'est le trophée qui lui manque. Pour Antoine Griezmann aussi. Donc il y a vraiment un objectif très concret pour l'équipe de France. Et quand on voit les forces en présence, et c'est cet euro un peu homogène, tu te dis que l'équipe de France est tout à fait capable d'aller gagner un euro, même si c'est pas, pour moi ce sera pas le
grand favori.
Non. Moi j'ai toujours dit, je dissocie le favori du vainqueur final. Pour moi le favori c'est ce qui se passe au départ de la compétition. Après ça veut pas dire c'est pas les favoris qui gagnent les compétitions. Moi j'ai un favori, enfin j'ai plusieurs favoris, et la France en fait partie, mais je ne suis pas sûr que ce soit la France qui gagne au bout. En tout cas, c'est pas mon vainqueur au bout.
David, toi ?
Non, moi, je suis d'accord avec Walid dans la mesure où il y a une animation différente qui est en train de se mettre en place, un peu surprenante, avec Mbappé un rôle un peu plus central, alors qu'on sait qu'il aime un rôle un peu plus à gauche, avec une défense à trois en phase de relance, avec un Koundé en troisième défenseur pour faire monter Théo Hernandez, avec un milieu qui est encore un peu incertain, ou un Zaïre Emery qui sort un peu de la rotation. Donc, dans le micro-management, il y a plusieurs incertitudes, plusieurs changements en fait de Didier Deschamps qui sont un peu tardifs par rapport à ce qu'il a essayer de mettre en place. D'ailleurs, régulièrement avec Didier Deschamps, je me demande à quoi sert la phase de qualification ou la phase de match amicaux, dans la mesure où c'est vraiment dans la compétition qui trouve sa formule. Donc, la formule avec les qualifiants, les 4 meilleurs 3e, fait que tu peux te rater, tu peux prendre du temps, bien évidemment, pour performer. Mais j'aurais un peu moins de certitude qu'Elton.
D'accord, vous nous appelez 32-16 pour en parler également. Alors, le tien, justement, David. Ton grand favori ou ton vainqueur que tu imagines à
le Portugal. Portugal. Pour moi, le Portugal, c'est l'effectif le plus complet en termes de profil, en termes d'âge, en termes d'expérience, même sur le banc, avec un Roberto Martinez qui sait performer avec une équipe nationale. Et très franchement, quand je vois l'attirail offensif du Portugal, c'est vraiment impressionnant. Il y a des pivots, il y a des joueurs de profondeur, il y a des dribbleurs, il y a des joueurs qui sont un peu plus pieds, un peu plus passeurs. Quand je vois la qualité au milieu de terrain, pareil, avec des joueurs qui sont, à mon sens, un peu sous-cotés. Un João Palhinha, c'est un des meilleurs milieux de terrain défensifs de Première Ligue. Et c'est un joueur dont on parle absolument jamais. Il y a quelques inconnus, il y a l'âge de Pep, il y a les performances de Ruben Neves, par exemple, en fait. Est-ce qu'il va vraiment être performant après être allé...
Les latéraux aussi.
Oui, mais les latéraux quand même, t'as du Cancelo.
Cancelo, ça peut être à double.
C'est erratique, mais t'as du Diego Dalot qui finalement a fait une bonne saison.
Ça, c'est vrai.
Mais quelle sélection a vraiment des certitudes au poste de latéraux? C'est aussi ça. Même l'Angleterre, qui traditionnellement est une terre de latéraux, à gauche, ils vont peut-être jouer avec Alexander Arnold Faupier, avec Joe Gomez. Donc, pour moi, c'est eux qui sont les plus complets et qui présentent le moins d'incertitudes.
Walid.
Non, moi, le Portugal, c'est bien évidemment, c'est une équipe qui fait partie des... Moi, je les mets plus en outsider. Moi, mes trois favoris, c'est l'équipe de France, l'Allemagne et l'Angleterre. Mais ils sont très, très bien placés. Et c'est une équipe qui a gagné l'Euro 2016. Même si moi, j'étais globalement déçu des dernières compétitions sous Fernando Santos, notamment sur le dernier Euro et sur la dernière Coupe du Monde, où ça sort contre le Maroc, contre l'Uruguay, contre la Belgique en huitième de finale. Mais c'est vrai que quand tu vois la liste aujourd'hui, gardien, défenseur, milieu, attaque, la variété, elle est complètement dingue, et même la dynamique.
Maintenant, Cristiano n'est pas une limite, les gars. Bon, il est mis à doubler, il y a deux jours.
Pour l'instant, c'en est pas une. Après, on va voir ce qui va se passer. Moi, les seules limites, c'est que je trouve quand même qu'on a un delta entre ce qu'on pense de certains joueurs et ce qu'ils réalisent sur le terrain avec le Portugal.
Comme si Léo, par exemple.
Ouais, il y a beaucoup de joueurs, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs au Portugal sur les dernières compétitions où je suis déçu. Bernardo Silva, au milieu de terrain là, il va peut-être avoir un renouveau avec Palinha et Joao Neves. Bruno Fernandes peut-être un peu plus reculé, mais un Rafael Leao qui est un joueur qui est pétri de qualité, qui est un joueur énorme. Il a pas commencé son aventure avec le Portugal en grande compétition encore.
Qui devrait être un joueur de tournoi, c'est le profil du joueur de tournoi.
Joao Félix, on peut rajouter Joao Félix, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais en termes de fiabilité, souvent on est quand même un peu déçu, voire déçu. Donc c'est plutôt ça moi qui me fait penser que sur le Portugal, souvent on en parle. Souvent c'est très très beau. J'ai encore vu le match hier contre l'Irlande. La première mi-temps, elle est très très agréable à suivre. C'est des joueurs qui sont très agréables à suivre. Mais après, la fiabilité pour aller gagner un tournoi, il y a quand même un gap. Il va falloir le montrer en grande compétition.
Moi, il y a une chose que j'aime, c'est qu'il maîtrise plusieurs systèmes. Il passe allègrement à 3 derrière, à 5 derrière, en 4-3-3. Et ça peut vraiment être une arme, s'adapter en fonction des adversaires. Je pense qu'il y a très très peu de sélections qui peuvent s'adapter aussi facilement.
Moi, j'attends beaucoup de Roberto Martinez, parce que Roberto Martinez contre la Belgique, il avait sorti le Portugal lors du dernier Euro. C'était un entraîneur qui avait quand même plutôt bien manœuvrer ce système à 3 derrière. Il a une flexibilité qui sera différente de Fernando Santos, mais il y a toujours eu un mais avec Roberto Martinez pour aller chercher la gagne. Et aujourd'hui, avec le vivier
après,
qu'il
a, c'est pas plus de son fait ça. Hein, c'est pas tellement de son fait. C'est davantage par rapport aux joueurs.
Oui, mais on l'attendait avec la Belgique. Je l'attends aussi avec le Portugal, avec cette génération dorée belge. Et là, il a une génération dorée aussi portugaise qui est énorme. Et je pense que le matériel est beaucoup plus équilibré au Portugal qu'avec la Belgique. Ou avec la Belgique, il avait des problèmes,
avait
notamment
des
les latéraux. Il devait faire jouer Carrasco.
Même en défense centrale,
il devait toujours à chaque fois remodeler. Là, ça va être moins le cas. Il a beaucoup de choix. Et sur ce tournoi, moi, j'attends beaucoup de Roberto Martinez.
C'est ce que dit Gaël sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Il dit l'effectif du Portugal est très costaud, effectivement, mais collectivement, Martinez n'a pas trouvé pour le moment son 11 type.
Moi, j'ai pas assez suivi le Portugal pour être honnête. Donc, on les redécouvre et on va les découvrir sur le tournoi, sur le jour J. Et puis, en plus, même les qualifications. Vu les adversaires, il n'y a pas une valeur énorme. On peut pas malheureusement.
Enfin, on dit ça. La dernière fois, le Portugal pour la Coupe du Monde 2022, ils sont passés par les barrages. Faut pas non plus l'oublier.
Oui, d'accord, très bien. Mais c'était la normalité. Le côté normal, c'est de battre le Liechtenstein et le Luxembourg quand tu t'appelles le Portugal. Mais sur la compétition jour J, en plus ils ont une poule qui est plutôt abordable, je trouve moi. Turquie, la Tchéquie,
en plus des vieilles connaissances.
Ouais, Géorgie, je pense que c'est plutôt abordable. Parmi les favoris, c'est peut-être la poule la plus abordable. Donc ça va leur permettre peut-être de se frayer un chemin. Je vois une équipe du Portugal sur le premier tour régaler un peu tout le monde, être l'équipe un peu sensation. Et après, ça va être là quand ils vont être attendus. On va voir si ils en ont véritablement dans le ventre.
D'ailleurs, les équipes de premier tour, c'est rarement les équipes de tour final. Ouais. C'est vrai qu'il faut savoir souffrir en phase de poule pour vraiment performer.
On a eu les Pays-Bas qui étaient
l'Argentine aura la Coupe du Monde.
Et là, pour le coup, c'est vraiment la marge de progression du Portugal en phase éliminatoire. Je vous rappelle que en comptant l'Euro 2016, c'est seulement 2 victoires en phase éliminatoire. Ouais. Donc, face au Pays de Galles en demi-finale et face à la Suisse en 8e de finale. C'est vraiment là où ils seront attendus. Phase éliminatoire, c'est en 90 minutes.
Dans un instant, Wally nous dira quel est son vainqueur de l'Euro 2024.
Quand tu dis phase éliminatoire, c'est à partir des 8e.
À partir des 8e.
On évoquera également celles qui vont se cracher, selon vous, votre joueur révélation, frisson, meilleur buteur. Vous nous appelez aussi au 32-16. N'hésitez pas à venir nous donner également vos pronostics, vos prévisions pour cet Euro. On est en direct sur RMC, il est 20h13. À tout de suite.